Bonjour. Le message qui va suivre vous est présenté par l'église La Maison du Bâtisseur, avec pour orateur Luc Ondias, pasteur principal. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifié en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse.
Amen, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles dans le livre de Colossiens? Dis avec moi, connaître la personne du Saint-Esprit. Voici maintenant 2 semaines. Nous rentrons dans notre 3e semaine de cet enseignement qui est extrêmement important pour la simple bonne raison que le Saint-Esprit est l'Esprit de la grâce. C'est l'Esprit de Christ. Expérimenter la grâce et tous les bienfaits de la grâce, ce n'est pas possible sans connaître la personne du Saint-Esprit. Le sujet le plus important de l'année, enfin l'un des sujets les plus importants de l'année dans le cadre de l'enseignement, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est trop important. Le Saint-Esprit est une personne, dis avec moi, c'est une personne. C'est la personne qui habite en chacun d'entre nous. Le Saint-Esprit est la personne que tu reçois, qui vient habiter en toi. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est la personne la moins connue dans l'Église. Parce que tout simplement, comme les enfants de Dieu, pour beaucoup, ne prient pas, ne développent pas une communion personnelle avec Dieu, eh bien, ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Et même quand le Saint-Esprit leur parle, ils n'arrivent pas à reconnaître sa voix. Et vous allez voir qu'on va s'attarder pendant plusieurs semaines sur ce genre de choses, reconnaître la voix du Saint-Esprit, etc. Parce que, je t'assure, le Saint-Esprit t'a déjà parlé à plusieurs reprises, de différentes manières, sauf que tu n'entends pas. Parce que l'homme, en fait, qui donne sa vie à Jésus-Christ, au début, très souvent, est d'abord très charnel. Parce que marcher avec l'Esprit et être spirituel, c'est quelque chose qui s'apprend avec le temps. Mais au début, on est très charnel. Celui qui est à l'extérieur, qui ne connaît pas Dieu, est très, très, très charnel. Parce que son esprit, la Bible dit que son esprit est mort. Mais lorsqu'on est de nouveau, notre esprit revient à la vie. Qui amène notre esprit à la vie? C'est le Saint-Esprit, parce qu'il est l'esprit de vie. Et au contact, à son contact, il redonne la vie à notre esprit. Amen. Et quand il redonne la vie à notre esprit, il devient un avec nous. C'est pour ça que dans le premier livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 6, au verset 17, il est écrit que celui qui est en communion avec Dieu est avec lui un seul esprit. Il n'y a pas 2 esprits en toi, il y a un seul esprit. Ton esprit est un avec l'esprit de Dieu. Vous êtes un seul et même esprit. Et c'est pour cela que quand il te parle, tu l'entends. Parce qu'il parle, il peut parler à ta conscience. Il peut parler à ta chair, il peut parler à ton cœur, il peut parler à ton âme, il peut parler de différentes manières. Il peut te parler pour te conseiller, il peut te parler pour t'alerter, il peut te parler pour t'enseigner. Mais le Saint-Esprit, son rôle, c'est pour ça que je l'appelle le tuteur, son rôle, c'est de t'amener à une seule chose, on l'a dit la semaine dernière, à ce que tu entres pleinement dans la volonté de Dieu pour ta vie. Amen. Dis avec moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est très important. Et il faut le connaître. Et il faut apprendre à discerner sa voix quand il te parle. Cette église s'appelle la maison du bâtisseur. Qui est le bâtisseur? C'est la personne du Saint-Esprit. Il est le bâtisseur. C'est lui qui bâtit l'église. C'est avec lui qu'on marche. Et si tu veux réussir dans la vie, si tu veux aller loin dans la vie, apprends à marcher avec le Saint-Esprit. Si tu marches avec le Saint-Esprit, tu apprends à développer une intimité personnelle avec le Saint-Esprit. Je t'assure, tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas échouer. Tu pourras faire des erreurs de parcours, mais celui qui marche avec le Saint-Esprit, c'est quelqu'un de très dangereux. Jésus-Christ, quel était son secret? C'était le Saint-Esprit. Et juste avant son départ, il révèle son secret à tout le monde. Il dit, en fait, il y a quelqu'un d'autre. Je vous envoie quelqu'un d'autre. Allos parakletos, le consolateur. Allos parakletos en grec. Allos veut dire autre, un autre. Allos veut dire un autre semblable à moi. Allos, paraclète. Paraclète, le consolateur, ou encore avocat, ou bien encore soutien, ou bien encore défenseur. Un autre défenseur comme, qui vous défendra comme je vous ai défendu. Un autre consolateur qui vous consolera comme je vous ai consolé. Un autre enseignant, il prendra de ce qui est à moi et il vous l'enseignera. Il vous conduira dans toute la vérité, comme je vous ai conduit dans toute la vérité. Il témoignera de moi. Allos, le Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Donc il est extrêmement important. Et c'est pour ça que Jésus-Christ leur a dit, ne bougez pas tant que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Attendez le Saint-Esprit. Oui, vous avez entendu les enseignements. Oui, vous avez la vision. Oui, vous avez déjà mis en place les objectifs. Vous savez comment vous allez conquérir le monde. Maintenant, attendez d'être revêtu de puissance. Parce que la puissance, c'est lui. La puissance que moi, je déployais quand je guérissais les gens, etc., c'est lui. Et vous allez voir que quand il vient, quand il viendra, vous allez juste vous étonner vous-même à faire des exploits. Mais en fait, les exploits, ce n'est pas vous, c'est lui qui le fait au travers de vous. Et si tu marches avec le Saint-Esprit, oui, il fera des exploits au travers de toi. Amen. Colossiens 1:9 dit, c'est Paul qui parle. Paul nous dit ceci. Colossiens chapitre 1, verset 9. Aussi, depuis les jours où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant par le Saint-Esprit, dis avec moi le Saint-Esprit, une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur qui lui plaise à tous égards. Car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. Paul nous dit ici que tu veux connaître la volonté de Dieu pour ta vie. Eh bien, la clé, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi il est la clé? Parce que tout simplement, il est celui sur la terre qui possède la connaissance parfaite du plan de Dieu. Il est celui qui connaît au détail près le plan de Dieu pour ta vie. Il est celui qui connaît parfaitement ton appel. Il est celui qui sait pourquoi Dieu t'a créé. Il sait toutes choses. Dis avec moi le Saint-Esprit. Il est extrêmement important. Et c'est pour cela qu'il faut le chercher. Et quand nous passons du temps à prier, à jeûner, à supplier, c'est lui qu'on cherche. Quand Jésus-Christ a dit aux disciples, ne bougez pas et attendez-le, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont montés dans la chambre haute. Et la Bible dit qu'ils ont prié des jours et des jours et des jours et des jours sans s'arrêter. Ils ont fait push. On prie jusqu'à ce que quelque chose se passe. Il a dit juste que le Saint-Esprit va venir, mais eux ne savaient pas comment il devait venir. On te dit un jour, le Saint-Esprit va venir. Tu sais comment il va venir? Il va venir, voilà, c'est moi. Non, tu ne sais pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prie. On prie. On prie et on ne s'arrête pas. Jusqu'à ce que, pff, il vint et descendu, telle des langues sur eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Amen. Donc, aujourd'hui, je voudrais me focaliser sur un point. Je ne pense pas qu'on le terminera aujourd'hui. Je voudrais me focaliser sur 15 bénéfices à entendre la voix du Saint-Esprit. 15 bienfaits. 15 avantages à entendre la voix du Saint-Esprit. C'est très important de l'entendre. Et quand on l'entend, il y a des retours. Il n'y a rien de pire que de marcher sans avoir de vision claire pour sa vie. Il n'y a rien de pire que ça. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Et parce que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous, il est très, très, très important de connaître ce plan et d'avoir une vision claire de là où on va dans la vie. Quelqu'un qui ne sait pas où il va dans la vie est quelqu'un qui risque de se fracasser contre le mur. Il est très important de savoir ce à quoi Dieu nous appelle, d'avoir une image claire de ce que nous sommes appelés à devenir plus tard. Et c'est très important que cette image ait été conçue par le Saint-Esprit et qu'il te l'ait révélée. Amen. Et comme on l'a vu pendant des mois, aujourd'hui, nous sommes dans une alliance qui s'appelle la grâce. Dis avec moi la grâce. Nous sommes dans l'année de la grâce surabondante. Nous sommes en train de 4 mois d'enseignement sur la grâce surabondante. La grâce, on ne peut pas l'expérimenter sans être en communion avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui active les promesses de la grâce dans notre vie. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne comment croître dans la grâce. C'est le Saint-Esprit qui bénit. C'est le Saint-Esprit qui nous utilise et qui nous amène à opérer dans différentes dimensions dans le monde pour pouvoir témoigner de Christ. On a besoin de lui. Si tu penses que tu vas réussir sur la terre et que tu vas accomplir des choses sans avoir une communion avec le Saint-Esprit, je t'assure, tu te fais des illusions. Tu pourras faire des choses. Mais je vais te montrer dans quelques minutes que comment on peut être dans la volonté de Dieu et ne pas être dans la volonté de Dieu. Pourtant, on arrive à faire des choses. Et il y a des conséquences. Amen. En étudiant la parole, on se rend compte que notre bénédiction, notre prospérité, notre progression, notre réussite dépend en grande partie du Saint-Esprit. Jésus-Christ est l'exemple parfait. Jésus-Christ nous a montré comment un homme doit marcher sur la terre et comment un homme peut réussir et prospérer rien qu'en marchant avec le Saint-Esprit. Les disciples, ils ont juste fait copier-coller. Ils ont marché avec le Saint-Esprit et ils ont eu les mêmes résultats. Jésus-Christ a dit, vous ferez les mêmes choses que j'ai faites et vous en ferez de plus grandes parce que maintenant je vais au Père. Pourquoi? Parce qu'il est plus avantageux pour vous que je m'en aille. Car quand je m'en irai, il vous enverra le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vous utilisera. C'est comme ça qu'on comprend que le livre des Actes des Apôtres est un livre qui s'est terminé par 3 petits points de suspension. Parce que les Actes des Apôtres, on est toujours en train de les accomplir là. Amen. Nous aussi, on pose des actes. Le Saint-Esprit a utilisé Paul, il a utilisé Barnabas, Marc, Luc, les apôtres, etc. Il continue, il a utilisé John Wesley, il a utilisé T.L. Osborne, il a utilisé Charles Spurgeon, il a utilisé plein de gens, Renard Bonquet, et il continue d'utiliser, il m'utilise moi, il t'utilise toi. Tout ça dans un seul but, c'est de réunir toutes les pièces du puzzle, vous rappelez le puzzle, toutes les pièces du puzzle pour que la gloire de Dieu soit manifestée en toute clarté aux yeux de tous. C'est pour cela que chacun d'entre nous, nous sommes une pièce du puzzle du plan de Dieu. Chacun d'entre nous. Et en tant que leader dans le royaume des cieux, notre rôle à chacun de nous, c'est de trouver notre place et de jouer notre rôle dans le royaume. Amen. Donc, il est une personne à part entière. Et entendre sa voix est très important. Entendre la voix du Saint-Esprit est ta priorité. Quand tu te lèves le matin et que tu te mets à prier, c'est pourquoi? C'est pour entendre sa voix. C'est pour recevoir des instructions de sa part. C'est pour commencer à avoir des idées qu'il va te souffler. Tu as des projets. Tu veux bâtir une entreprise. Tu veux construire ta maison. Tu as été promu dans une société ou dans une administration. Tu ne sais pas comment tu vas faire pour manager toutes ces personnes. Tu vas prier et tu vas lui demander la sagesse. Tu vas lui demander le discernement. Tu vas lui demander la créativité. Tu pries, tu cherches sa face. Tu recommandes tes projets. Tu as un problème. Tu as un problème avec ta femme. Tu as un problème avec ton mari. Tu vas dans la prière et tu t'assois devant lui. Tu dis, Seigneur, montre-moi comment je dois faire pour régler ce problème-là. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi. J'ai besoin de t'entendre. Parle-moi. Dis avec moi, entendre la voix du Saint-Esprit. Premièrement, premier bénéfice d'entendre la voix du Saint-Esprit, entendre la voix du Saint-Esprit te permet de connaître la volonté parfaite de Dieu et son plan pour ta vie. Déjà, la principale raison pour laquelle on doit entendre Dieu, c'est d'abord pour connaître. C'est pour ça que Paul nous dit que nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté, pas de manière partielle, pleinement. Parce qu'il faut que tu saches tout ce que Dieu a prévu pour toi. Et Paul dit qu'il suppliait. Il suppliait. Et vous allez vous rendre compte que quand vous lisez les écrits de Paul adressés aux églises, adressés aux gens, cette parole-là, elle revient très souvent. Je prie que Dieu illumine les yeux de vos cœurs afin que vous connaissiez l'espérance qui est attachée à votre appel. Dans Romains 12, au verset 2, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, les enfants, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Pourquoi il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent » Le mot « conformer » est un mot très intéressant. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, la plupart d'entre nous, je ne dis même pas la plupart, nous tous, on vit dans le monde. On n'est pas du monde, mais on vit dans le monde. Et quand on vit dans le monde, on a tendance à vouloir copier le monde, puisqu'on est avec eux tout le temps. On veut construire une société, parce qu'on a vu dans le monde que pour construire une société, ben, tu vas la déclarer au CDE, tu trouves un capital, tu démarres, tu embauches 2-3 personnes, et puis tu as les relations, tu rentres un peu dans les cercles, et puis tu connais telle personne, bim bam boum, et puis c'est fini. Là, voilà, tu te développes, puis c'est fini quoi. J'ai mon premier million, après mon premier 10 millions, et puis c'est fini, je suis arrivé, etc. Je commence à rouler dans une voiture. Voilà la réussite de la société. Mais qui t'a dit que c'est dans le royaume, c'est comme ça? Dans le royaume, c'est pas comme ça. Tu veux te marier? Si je veux me conformer au monde, oh, tu sais, il faut d'abord goûter avant de manger. Donc, je vais d'abord aller vivre avec elle, tout ça. Donc, on va d'abord se mettre bien, elle et moi. On va coucher ensemble, etc. Mais ce n'est pas trop grave, c'est juste un péché mignon. Ce n'est pas un problème, ça. D'accord, et puis le temps viendra, on va se marier quand les parents voudront bien, etc. Ça, c'est se conformer au monde. Hein? Mais dans le royaume de Dieu, c'est bien différent. Amen. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Regardez ce qu'il dit ici. Il dit ce qui est bon, agréable et parfait. Au regard de ce verset, on comprend deux choses très importantes au sujet de la volonté de Dieu. La première chose que Paul nous révèle ici, c'est que il y a trois niveaux dans la volonté de Dieu qu'il nous montre ici. Bon, agréable et parfait. Tu vas me dire, mais c'est quoi la différence ? Le premier niveau, c'est la volonté bonne de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la volonté bonne de Dieu? La volonté bonne de Dieu, c'est quand Dieu est d'accord et n'a aucun problème avec ta vie, car elle est conforme à sa parole. Tu ne fais rien de spécial pour le royaume, tu es né de nouveau et tu vis une vie tranquille, mais sans pour autant être utile au royaume. Tu es là, mais tu n'es pas encore à ta place prévue dans le plan de Dieu. Tu ne vis pas dans le péché, il n'y a pas de problème. Tu as une vie d'église, etc., etc. Sauf que tu ne sers pas le Seigneur. Tu n'es pas utile pour son œuvre. Tu vis une vie tranquille. Tu n'embêtes personne. Tu as ta petite vie bien rangée. Tu vas au travail. Tu as tes amis, etc. Tu n'embêtes personne. Mais quand il s'agit de servir le Seigneur, tu fais « J'ai pas le temps de servir le Seigneur. Je suis un chrétien normal, bien comme il n'y a pas de problème. Mais je ne sers pas Dieu particulièrement. » Tu es dans la volonté bonne de Dieu. Amen. Est-ce qu'on me suit? Ensuite, tu as le deuxième niveau, la volonté agréable de Dieu. Dis avec moi agréable. Là, c'est une dimension supérieure. Là, tu es agréable à Dieu. Celui qui est agréable à Dieu, c'est celui qui est entré dans son appel. C'est celui qui est entré dans son appel et qui a commencé à travailler pour l'œuvre de Dieu. Que ce soit par le biais d'une église, ou d'une organisation quelconque au niveau mondial. C'est-à-dire, il travaille pour le Seigneur. Amen. Tu es agréable. Jésus-Christ a dit, Jean 8 au verset 29, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Est-ce qu'on me suit? Là, Jésus-Christ était dans la dimension d'être agréable. Parce qu'il faisait pleinement ce que le Seigneur, comment dire, il faisait pleinement ce que le Seigneur attendait de lui. Il était agréable à Dieu. Il servait Dieu. Il accomplissait des œuvres pour le Seigneur. Il était un instrument entre les mains de Dieu, etc., etc. Sauf que Jésus-Christ, tant qu'il n'était pas mort, il n'était pas dans la volonté parfaite de Dieu. Voyez ou pas? La volonté parfaite, c'est le dernier niveau. La volonté parfaite, cette fois-ci, tu es maintenant à ta place dans le royaume. C'est pas juste que tu sers, c'est que tu es là exactement où Dieu veut que tu sois. Tu prospères, tu es un leader dans le royaume. Tu sers le Seigneur et tu lui as donné totalement ta vie. Jésus-Christ ne pouvait pas rentrer dans la, n'était pas encore dans la volonté parfaite de Dieu parce qu'il n'avait pas encore donné sa vie. Et Dieu avait raison de dire que tu n'es pas encore dans la volonté parfaite. Parce que tout simplement, quand on regarde le jour de la crucifixion, Jésus-Christ a résisté. Il a combattu toute la nuit pour résister. Jusqu'au moment où il a dit, « Bon, je cède, non pas ma volonté, mais ta volonté. » Et quand il a dit ça, le Père a dit, « Ok, là c'est bon, maintenant tu peux aller. Montre-moi que tu peux être dans ma volonté parfaite. » Celui qui est dans la volonté parfaite, c'est celui qui dit comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je ne vis plus pour moi-même. Je ne vis plus pour ma famille. Dieu passe en premier dans tout. Je n'ai plus d'intérêt pour moi-même. Tous mes intérêts, ce sont les intérêts de Dieu. Ma priorité, c'est la priorité de Dieu. Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est Dieu qui passe en premier, dis avec moi la volonté parfaite. La volonté parfaite, comment est-ce qu'on peut la définir? C'est quand tu es là où Dieu veut que tu sois. Il est totalement satisfait car tu as choisi de pleinement lui obéir. Il est content quand il entend ton nom. Dieu sourit quand on dit le nom de pasteur Luc, on dit à son nom de Jésus. Dieu sourit quand on cite ton nom. Dieu est content. T'as dit, tu n'as pas vu qu'il y a des gens, quand tu entends parler de ça, te fait quelque chose. Tu sais que ah, la personne là, elle me fait du bien, quoi. Je l'aime. Il y a des gens comme ça? Il y a des gens comme ça? Oh. Si demain, tu es là assis, le frère qui est là, il dit, mon frère, Dieu m'a parlé, je suis content aujourd'hui. Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé à ton sujet. Tu vas là dehors, il y a une voiture toute neuve pour toi. Tu dis, oh frère, vraiment, oui, la voiture, tu vois la voiture, c'est dernier Santa Fe à 26 millions. Il t'a offert ça. Le frère en question, chaque fois que tu le verras entrer, tu fais, oh mon frère. Chaque fois que tu le verras, chaque fois qu'on parle, tu vas dire, oh le frère, il m'a fait du bien. Tu vois, non, il m'a touché. Il m'a touché. Mais c'est pareil pour Dieu. Quand tu as touché Dieu, comme on dit, la femme à la perte de sang, elle toucha. Quand tu as touché, non, tu sais, il y a des gens qui touchent et il y a des gens qui touchent. Elle a touché le plan de sa robe. Et quand elle toucha le plan de sa robe, Jésus-Christ dit, qui m'a touché? Et Pierre dit, mais Seigneur, tout le monde te touche. Non, tout le monde me touche. Mais il y a quelqu'un qui m'a touché. Dis avec moi, touché. Il y a quelqu'un qui m'a touché au plus profond de mon être. Et une force est sortie de moi. Tu vas voir que moi, ou bien quand un frère de l'église te tient la main comme ça, ça ne te fait rien. Mais quand la sœur que tu vises depuis et vous commencez à vous fréquenter, tout ça, tu te lèves le matin, tu penses à elle, tu dors le soir, tu penses à elle. Quand elle vient et puis elle te touche, ça te fait quelque chose. Amen. Il ne faut pas trop la toucher. Il faut attendre de lui mettre la bague au doigt pour la toucher. Que quelqu'un dise amène à ça.
Amen.
Donc, si tu vois un frère et une sœur qui se touchent, bizarrement, ils s'attrapent alors qu'il n'y a pas de bague, je te donne l'autorisation express d'aller les voir et d'aller arrêter de vous toucher.
D'accord.
Vous n'avez pas le droit. Avec tout l'amour du Seigneur. Amen. Donc, Jésus est entré pleinement dans la volonté parfaite de Dieu lorsqu'il est mort à la croix. Et sans le savoir, on peut avoir des attitudes qui nous amènent à être dans la volonté imparfaite de Dieu. Ah, c'est quoi la volonté imparfaite de Dieu? La volonté imparfaite de Dieu, c'est quand on rentre dans un état de révolte ou de rébellion. On entre dans un état où on refuse d'obéir à Dieu. Et Dieu nous laisse faire. Où est-ce que je veux dire? Il ne nous empêche pas. Il nous laisse faire. Il nous a dit qu'il ne fallait pas faire, mais on le fait quand même. On s'entête à ne pas lui obéir et à suivre son plan pour notre vie. C'est un peu comme un Jonas qui refuse d'entrer dans la volonté de Dieu et il va ça et là. Et tant qu'il ne rentre pas dans la volonté parfaite de Dieu, il rencontre tout un tas de problèmes. C'est quand Dieu n'est pas satisfait de toi et qu'il ne fait que te toléré. C'est un peu le cas de Saül dans la Bible. Il était destiné à être roi, d'accord? Mais parce qu'il n'était, il n'a pas fait exactement ce que Dieu lui avait demandé tout en étant roi, il n'était pas dans la volonté de Dieu. Et Dieu lui a résisté. C'est quand Dieu te tolère et fait preuve de patience en attendant que tu te repentes. Tu peux avoir une vie qui semble normale, mais en fait, elle déplaît à Dieu. Tu occupes une place, mais pas la place à laquelle Dieu t'a assigné. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous voyez? Tu peux même avoir l'impression de prospérer. Tu peux même gagner de l'argent et croire que Dieu est avec toi, mais en fait, Dieu n'est pas avec toi. Et c'est pour cela qu'il est important d'écouter Dieu, d'écouter le Saint-Esprit pour qu'il te parle et te dise que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Il y a des gens, on peut être dans des activités, on a l'impression que tout va bien et que ça marche. Mais tu vas voir qu'il y a des petits signes qui montrent que Dieu n'est pas avec toi. La différence entre celui qui est dans la volonté parfaite et celui qui n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu, il y a une différence. Cette différence, c'est que celui qui est dans la volonté parfaite de Dieu, Dieu est avec lui. Regarde ce que Jésus-Christ dit. Jésus-Christ dit, il ne m'a pas laissé seul. Donc, il y a une promesse ici dont bénéficie celui qui est dans la volonté parfaite de Dieu, c'est que Dieu le protège. C'est pour cela que quand tu marches dans le couloir de ta destinée, on peut monter, descendre, le diable peut t'en vouloir, il ne peut pas te toucher. Parce que la main de Dieu est sur toi. Mais celui qui est dans la volonté imparfaite de Dieu, celui-là, il y a une porte qui est ouverte dans sa vie parce que Dieu n'est pas avec lui. Regardez l'histoire des Juifs dans le livre de Exode. Lorsque Dieu leur dit, allez au combat. Allez au combat. Je ne sais plus c'est quel passage. Et il dit à Moïse, nous n'y allons pas. Et Dieu se mit en colère. Et Moïse revint les voir en leur disant, vous avez refusé d'obéir à la voix de l'Éternel. Et Dieu s'est mis en colère contre vous. Et les Juifs se sont mis tous à pleurer en disant, oh, nous avons péché, etc. La Bible dit que le lendemain matin, ils sont revenus voir Moïse et ont dit à Moïse, nous allons aller à la bataille et obéir à Dieu. Et Moïse a dit, non, c'était hier qu'il fallait aller, pas aujourd'hui. Là, cette fois-ci, l'Éternel n'est pas avec vous. Ils ont dit, non, on va y aller quand même. Ils n'étaient pas dans la volonté parfaite de Dieu. Et la Bible dit qu'ils sont partis quand même et on les a zigouillés là-bas. Vous voyez ce que je vais dire ou pas? Donc, je vais te donner quelques autres exemples. Par exemple, Balaam. Tu te rappelles de Balaam dans le livre de Nombre? La Bible nous dit de Balaam, dans Nombre, chapitre 22, verset 12, Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Et plus loin, il est écrit, Balaam répondit et dit au serviteur de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrai faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Il vient de dire, je ne pourrai faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel. Maintenant, je vous prie, restez ici, je vais encore aller chercher la face de Dieu pour savoir ce qu'il pense. Et il se contredit lui-même. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux. Alors que juste avant, Dieu lui a dit, Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, tu n'iras pas. Mais il revient et il insiste encore. Et Dieu dit, bon, cette fois-ci, va avec eux. Mais en fait, regarde ce qu'il dit juste après. Il dit, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. Regarde, la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Parce qu'il avait insisté. Et il y a des gens qui sont souvent comme ça avec Dieu. Dieu t'a parlé, Dieu t'a dit des choses, mais tu persistes au sens contraire. Et au bout d'un moment, Dieu dit, bon, fais. Mais sauf que quand tu es dans la volonté imparfaite, il te résistera. Et tu rencontreras tout type de problèmes. Il y a encore un autre qui était dans la volonté imparfaite de Dieu, à qui ça a attiré des problèmes. Vous vous rappelez de lui, non? Abraham. Sarai, Genèse 1. Genèse 1. Au chapitre 17, je crois. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. peut-être aurai-je par elle des enfants. Il est écrit, Abraham écouta la voix de Sarai. Il n'écouta pas la voix de Dieu. Et vous allez voir que d'ici la semaine prochaine ou la semaine d'après, l'importance de faire attention aux voix des hommes, l'importance de faire attention à ce que les gens nous disent. Parce qu'on écoute trop les gens, au lieu d'écouter Dieu. Beaucoup d'entre nous, on a déjà vécu des situations compliquées parce qu'on avait pris le temps d'écouter quelqu'un et on s'est rendu compte qu'en fait, on aurait dû écouter le Seigneur. Si ce n'est pas quelqu'un de la famille, c'est peut-être un petit ami, etc. Si ce n'est pas le petit ami, c'est peut-être un collègue de travail, quelqu'un qui nous est proche, etc. Les gens te donnent les conseils, mais tu n'as pas toujours le réflexe de te dire, bon, c'est quoi la volonté de Dieu en fait? Qu'est-ce que Dieu attend de moi concrètement? On écoute. Gloire à Dieu. Donc, un signe fort pour savoir si tu es dans la volonté de Dieu, c'est de voir si tu ne rencontres pas une résistance de la part du Seigneur. Comment savoir que Dieu te résiste? Si tu expérimentes tout un tas de cascades, d'événements qui viennent te mettre des bâtons dans les roues, et tu te dis, mais Seigneur, soit c'est vraiment des oppositions qui montrent que je suis vraiment dans ta volonté et je dois résister et travailler, soit c'est toi. Mais là, il faut que tu me parles parce que quand je suis dans la volonté de Dieu, en général, ça flotte, ça coule. Il n'y a pas de problème, les choses avancent, ça flotte. Même si le diable attaque, ça flotte, ça avance, ça progresse, ça grandit. Amen. Donc la volonté imparfaite de Dieu, il est important de ne pas y être. Et pour ça, il faut savoir entendre la voix du Saint-Esprit. Et quelqu'un qui sait entendre la voix du Saint-Esprit est quelqu'un qui sait reconnaître la volonté de Dieu pour sa vie. Amen. Deuxièmement, entendre la voix du Saint-Esprit te permet d'agir au temps de Dieu et d'éviter des erreurs qui peuvent s'avérer regrettables plus tard. Je m'explique. Il y a des erreurs dans la vie qui engendre des conséquences et qui peuvent te suivre longtemps, voire toute ta vie. Un très bon moyen de se tromper, c'est quand on est convaincu qu'on a raison. Tous les feux sont verts et même la parole de Dieu semble être avec toi. Je m'explique. Est-ce que c'est interdit par la Bible? Non. Je suis dans la parole de Dieu, hein? Non. Oui, je suis dans la parole de Dieu, oui. Mais est-ce que tu as pris le temps d'écouter le Saint-Esprit? Le problème, c'est que tu es convaincu d'avoir raison. D'accord? Tu es convaincu d'avoir entendu, d'avoir reçu une vision, une conviction, quelque chose. Tu sais que c'est là que tu dois aller. Mais les gens autour de toi te disent, est-ce que tu es sûr que c'est le moment de faire ça? Et toi, tu dis, oui, c'est bon, ça vient de Dieu. Maintenant, tu vas comprendre qu'il y a une différence entre recevoir la vision et enclencher la vision, c'est-à-dire se mettre la vision en marche. Et là, c'est ce que j'appelle attendre le feu vert du Saint-Esprit, attendre son go. Jésus-Christ dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. D'accord? Il leur dit, allez. Mais après, il leur dit, attendez le Saint-Esprit. Je vous ai déjà donné le go, je vous ai déjà donné le feu vert, c'est bon, vous pouvez y aller. Attendez-le. C'est lui qui va en éclaireur et qui revient et qui vous dit, c'est bon. Le chemin est en place. Vous pouvez y aller. Tu peux y aller maintenant. Est-ce qu'on me suit? Par exemple, le Seigneur t'a appelé à entrer dans le ministère. Tu as reçu l'appel. C'est pas parce que tu reçois l'appel au ministère que tout de suite tu vas dire, maintenant je rentre dans le ministère, je commence maintenant à faire ceci et à faire cela. Non, il faut attendre le go de Dieu. Vous voyez ou pas? Il faut attendre le go de Dieu. Un exemple très récurrent dans les églises, ce sont les prophéties. Dis avec moi les prophéties. Les prophéties. Beaucoup de gens dans les églises ont commis de très graves erreurs, voire qui leur ont coûté très très cher dans leur vie parce qu'elles avaient entendu une prophétie. Elles étaient convaincues qu'avoir entendu la prophétie voulait dire « maintenant je mets la chose en marche ». Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas parce que tu as entendu la prophétie que ça veut dire que c'est le temps de Dieu maintenant. La prophétie, elle vient de Dieu. Elle est de Dieu. Mais ce n'est pas le temps. Est-ce qu'on me suit? La Bible nous dit ceci. Dans Habacuc, au chapitre 2, au verset 1. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Il y a 5 attitudes ici qu'il faut relever. Une fois qu'on a reçu une parole du Seigneur, il y a 5, dis avec moi 5. La première, c'est que Habacuc nous dit, tiens-toi à ton poste, tiens-toi sur la tour et veille. Qu'est-ce qu'il a, de quoi il nous parle ici? Il nous parle de la prière. Tu reçois une parole de Dieu, tu reçois une instruction du Seigneur, non, tu reçois un appel du Seigneur, tu reçois une vision de Dieu. Il est important que tu ailles dans la prière, que tu prennes le temps de veiller jusqu'à ce que tu reçoives des instructions claires avec un plan d'action. Tu vois, non? Il y a beaucoup de gens qui vivent de prophéties. Ils vont venir ici, ils vont entendre une prophétie. Quand il a eu sa dose de prophétie, il va dans une autre église, prophétie aussi. Et après, on entend que Bénin arrive à Libreville, il va chercher sa prophétie. Après, si ce n'est pas là-bas, il va aller chez lui, Badinga, à Shekina, je veux ma prophétie. Et après, ils vivent que de prophétie. De pasteur en pasteur, d'église en église, que de prophétie. Au bout d'un moment, ils sont constipés de prophétie. Mais au bout d'un moment, après toutes les prophéties qu'on t'a faites, tu vois, aucune d'entre elles ne s'accomplit dans ta vie. Mais arrête-toi et cherche à entendre la voix du Saint-Esprit. Toujours chercher à entendre la voix des hommes, des hommes, des hommes. Au nom de Jésus, je te vois, mon frère. Je te vois, je te vois. Je te vois clair. Tu seras président de la République. Toi, tu étais tranquillement dans tes petits business, avec ta femme, tu faisais tes choses. Du jour au lendemain, le pasteur a dit que je serai président de la République. Maintenant, je me lance dans la politique. Donc, je commence maintenant moi aussi à rentrer dans le camp des critiqueurs. Je commence à dire, ceci, ceci, ceci. Mais non, j'ai la prophétie, je serai président. Qui t'a dit que c'est comme ça que ça doit se passer? Est-ce que Dieu t'a parlé? Il a donné la prophétie, mais ça veut dire que c'est le temps. Amen. Trop de gens vivent de prophétie. Un, tu dois te tenir à ton poste dans la prière. Deux, il dit, écris la prophétie. Ce qui veut dire, écris la parole que tu as reçue de Dieu et mets-la en sécurité quelque part, dans un document, dans un cahier, avec un plan d'action détaillé et des objectifs. Faire un plan d'action avec des objectifs pour l'accomplissement de la prophétie, ça ne veut pas dire qu'il faut démarrer le plan d'action tout de suite. Il faut attendre le temps de Dieu. Mais attendre le temps de Dieu ne t'empêche pas de commencer à te préparer maintenant. Amen. Trois, il dit, lis-la couramment. Lis-la couramment, ça veut dire le plan d'action, la prophétie, la parole que tu as reçue du Seigneur, lis-la régulièrement pour te l'imprégner bien comme il faut. Parce qu'au moment où tu vas commencer le travail, il faudra que tu sois rempli parce que tu auras des challenges, tu auras des défis. Il faut que tu aies embrassé pleinement la vision. Ce n'est pas parce que tu reçois une vision aujourd'hui que tu as compris la vision ou bien que tu possèdes la vision. Il faut que tu arrives à un stade où c'est la vision qui te possède. Il y a une différence entre quand je possède une vision et quand la vision me possède. Quelqu'un qui est possédé par une vision, c'est quelqu'un qui est prêt à mourir pour une cause. C'est-à-dire, il est possédé par la chose. Il dit là, tu me tues même, il n'y a pas de problème, je m'en fous, je vais mourir pour ça. Amen. Quatre, qu'est-ce qu'il dit? Rappelle-toi toujours qu'il y a un temps fixé pour l'accomplissement de cette parole dans ta vie. Et cette parole, elle a un temps. Et ce temps, c'est le temps de Dieu. Ce n'est pas ton temps. Chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, vous avez un appel sur votre vie. Chacun ici, vous avez un appel. Vous êtes appelé à faire des choses avec le Seigneur. Mais vous devez prendre le temps d'entendre la voix de Dieu pour écouter, pour saisir son temps. Amen. Et enfin, il dit, si elle tarde, attends-la. Attends-la. Attends patiemment jusqu'à ce que Dieu te donne le go. Comme il a dit aux disciples, attendez. Le go du Saint-Esprit est le meilleur moyen d'être sûr qu'on ne s'est pas trompé. Amen. Attends-la. Dis avec moi, attends. Ce n'est pas parce que Dieu a un plan pour ta vie que ça veut dire que ça va s'accomplir aujourd'hui. David a su qu'il allait devenir roi d'Israël à l'âge de 17 ans. Il est devenu roi à l'âge de 40 ans. La prophétie s'est accomplie 23 ans plus tard. Et pendant tout ce temps, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est laissé posséder par la vision. Il a travaillé pour le Seigneur. Il a fait des choses pour Dieu. Il était dans la volonté agréable. Et il bénéficiait de la protection de Dieu parce qu'il était dans la volonté agréable de Dieu. C'est pour ça que Saül n'a jamais pu le tuer. Jusqu'au jour où on est venu le chercher pour le couronner. Et là, il était dans la volonté parfaite de Dieu. 23 ans plus tard. Joseph a reçu la prophétie sur sa destinée à l'âge de 17 ans. Qu'il allait un jour voir le soleil et la lune qui représentaient ses parents, papa et maman, et les autres étoiles qui représentaient ses frères qui étaient en train de se prosterner devant lui. Il est parti, il a vécu l'esclavage, il ne comprenait même pas. Pendant tout ce temps, en esclavage, Dieu le préparait, il a appris la gestion financière, il a appris l'économie, il a appris à gérer les gens, le management des hommes, il a appris tout un tas de choses, tout ça là. Il ne savait pas à quoi ça servait. À l'âge de 40 ans, un beau jour, il interprète un rêve et bim, bam, boum, miracle de 24 heures, bim, bam, ta, ta, lavez-le, pou, pou, il sort de la prison, le la, ta, ta, la robe, la bague. Au nom de Jésus, ça va t'arriver. Et à l'âge de 40 ans, Joseph se retrouve premier ministre d'Égypte. Ça, Dieu, t'as-tu blague avec lui? Je t'ai dit, un gars qui est prêt à tuer son fils sur la croix, qu'est-ce qu'il peut faire? Joseph est resté en esclavage pendant des années. La Bible dit qu'on l'avait même oublié. Et en même pas 24 heures, en quelques heures, il s'est réveillé un matin dans son lit sale. Et la nuit, il se retrouve à dormir dans un lit en soie. Et en plus, Dieu accélère. Hein. Oh, mon ami, quand Dieu parle sur toi, il accélère, il rattrape. Tu sais, Joseph, il se tient devant le roi. Le roi dit quoi? Le roi dit, pourrons-nous trouver un autre homme aussi sage que lui? Voici, il n'y a que mon trône qui me séparera de toi. Je te donne ma bague. Prosternez-vous devant lui. En plus de quoi? Je prends ma fille, tiens, viens, viens, viens. Je te donne femme, tiens, une jolie fille. Va, c'est ta femme maintenant. Donc il a rattrapé en quelques heures toutes les années. Hey, non, vraiment. La femme, la voiture, les gardes du corps, tout, en quelques heures. Dieu, tu blagues. Tu es là assis, tu ne sais pas que la fidélité que tu montres à Dieu, dans ton service, dans ta consécration, dans ta sanctification, tu ne sais pas que demain, du jour au lendemain, Dieu peut venir te chercher. Ananias était tranquillement assis chez lui, un simple petit chrétien qui n'embêtait personne. Une nuit, il entend le Saint-Esprit qui lui dit, Ananias, Seigneur, il avait appris à entendre la voix du Saint-Esprit dans ses moments de prière et de consécration, de supplication. Et un jour, Ananias, lève-toi. Oui, Seigneur. Il y a un homme qui se trouve dans une maison, qui se trouve dans la rue appelée la droite. Il s'appelle Saul. Va et étends tes mains sur ses yeux et redonne-lui la vue. Mais Seigneur, c'est pas celui qui perd tête. Ah, vas-y, Ananias. Bim, bam, boum. Ananias rentre dans l'histoire de la Bible. Barnabas, chrétien simple, il n'embête personne. Consacre sa vie au Seigneur. Les apôtres viennent, les apôtres disent, on va faire une offrande au Seigneur pour l'Église. Barnabas, qui était un homme d'affaires, un businessman, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais moi je vends un de mes terrains. Il a vendu un de ses terrains, il emmène à l'église. Et Dieu dit, ouh, son offrande est tellement insolente que désormais Barnabas devient apôtre et mentor de Paul. Tu vois comment la destinée de quelqu'un peut être switchée en quelques secondes juste à cause d'un acte qu'il a posé. Mais il ne savait pas que toute sa vie, tout son empire dans les affaires qu'il avait construites, c'était pour faire cette offrande à l'Éternel pour sa destinée. Donc, tu es là, tu ne sais pas que ta fidélité, ta consécration, ton travail, tout ce que tu fais, c'est pour Dieu. Et un jour, Dieu peut venir te chercher. Naaman le Syrien était malade de la lèpre. Et il y avait une petite fille, il y avait une petite fille qui était servante de la femme de Naaman. Et un jour à la cuisine, elle dit, « Oh madame, si votre mari pouvait aller voir le prophète Élisée qui se trouve en Israël, il serait guéri. » Naaman entend la chose, il prend son cheval et il s'en va. Et là-bas, il expérimente la guérison. Juste parce qu'il y avait une petite fille qui savait entendre la voix du Saint-Esprit. Amen. Donc, ce n'est pas seulement ceux qui sont sur le pupitre. Même toi, là-bas, assis, Dieu te regarde et Dieu dit, toi, il y a ton temps. Je vais t'utiliser à un moment bien pressé. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je voudrais que tu rendes grâce à Dieu et que tu dis, Seigneur, merci pour ta parole qui m'a fait comprendre l'importance, premièrement, d'être dans la volonté parfaite que tu as pour moi. Et deuxièmement, l'importance, Seigneur, d'attendre le temps de Dieu. Attendre le temps de Dieu, le temps marqué. Car il y a un temps qui est fixé. Je mène une vie simple. Je me consacre, je vais à l'église, je prie, je médite la Bible. J'essaie de bâtir des choses, de construire des choses avec le Seigneur. Mais il y a un temps où, Seigneur, toutes ces choses, elles ont leur utilité. Car un jour, tu m'utiliseras, Seigneur. Quel privilège, si ce n'est celui d'être utilisé par Dieu pour son œuvre. Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce. Miséricorde à qui il veut faire miséricorde. Je prie simplement que tu étendes ta main sur moi. Il ne s'agit pas d'une religion. Il s'agit du Dieu des cieux qui a créé les cieux et la terre. Et comme Paul, Seigneur, je veux pouvoir me tenir devant toi ce matin et te dire, Seigneur, que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui doit vivre au travers de moi, Seigneur. Alors me voici devant toi. Je viens tel que je suis, Père de grâce. Et je veux simplement te donner ma vie et te dire, Seigneur, que ce soit au travers de mes entreprises en tant qu'homme d'affaires, que ce soit au travers de mon travail, que ce soit au travers de ma famille, que ce soit au travers de mes activités. Je prie, Seigneur, que tu puisses trouver ton intérêt dans ma vie, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses seront données par-dessus. Seigneur, ma priorité doit être ta priorité. S'il y a un domaine de ma vie où tu n'es pas en premier, alors montre-le-moi, Seigneur. Je veux que tu sois en premier, car je veux accomplir ta volonté parfaite pour moi, Seigneur. Mais je ne veux pas être, Seigneur, ô Dieu, je ne veux pas être aveugle. Je prie que tu illumines les yeux de mon cœur afin que je comprenne, Seigneur, qu'il y a un temps, Seigneur, pour moi. Et j'attendrai patiemment ce temps. Je rends grâce et je te bénis pour toutes les personnes qui sont déjà dans le champ et qui travaillent pour toi. Si moi aujourd'hui je ne travaille pas encore, alors je vais me lever pour commencer à travailler. Peut-être que je ne serai pas dans la volonté parfaite, mais Seigneur, aujourd'hui je choisis d'être dans la volonté agréable et de commencer à travailler pour ton œuvre, Seigneur. C'est parce que, oh Dieu, je n'étais pas dans ta volonté que l'ennemi venait toujours dévorer, Seigneur, dévorer mes biens, dévorer mes finances. Mais dès que j'entre dans ta volonté agréable, je bénéficie de ta protection. Tu me protèges, tu protèges ma famille, tu protèges mes biens, tu protèges mes finances, tu protèges mon ministère, tu protèges mes entreprises, parce que je te suis agréable. Je choisis de t'être agréable, Père, au nom de Jésus-Christ. Je veux te suivre. Car tu as dit dans ta parole que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à son père, qu'il renonce à sa mère, qu'il renonce à ses frères et à ses sœurs, et il retrouvera dans le royaume toutes ces choses au centuple, mais qu'il prenne sa croix aujourd'hui, qu'il s'en charge et qu'il me suive, Seigneur. Seigneur, je veux te suivre, Père de grâce. Je choisis, Seigneur, de m'abandonner à toi. Je prends le temps d'attendre, Seigneur, la parole, l'accomplissement de la parole que tu as prononcée sur ma vie. Car Paul a dit à Timothée, souviens-toi, Timothée, souviens-toi de prophéties qui ont été faites sur toi lorsque l'on t'a imposé les mains. Souviens-toi, Timothée, car certainement ces prophéties, elles s'accompliront. Et chacun d'entre nous, nous sommes venus au Seigneur et Dieu a prononcé une parole sur nous, car ta parole déclare que nous sommes béni de toutes sortes de bénédictions en Christ dans les lieux célestes. Béni veut simplement dire prononcer des bonnes paroles. Tu as prononcé des paroles sur ma vie et je continuerai de croire
que ces paroles s'accompliront. Je crois que tu as un plan pour ma vie, car tu dis aussi que je connais les projets que j'ai pour toi, des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et une espérance. Merci pour tous les projets, Seigneur, que tu as pour moi. Et je crois que comme dans tout projet, il y a un temps, Seigneur, pour l'accomplissement de ce projet. Il y a un temps pour le démarrage de ce projet et il y a un temps pour son accomplissement. Ma vie est un livre ouvert entre tes mains, que tu prends plaisir à lire, Seigneur. Il y a des hauts, il y a des bas, mais je continuerai de croire que le dernier chapitre de la, du livre de ma vie est intitulé « Gloire au Seigneur ». Voilà pourquoi, Père de grâce, je te fais confiance. Je mets toute mon espérance en toi ce matin. Je m'attache à toi, Seigneur, mon Dieu. Et je crois, Seigneur, que tu feras de grandes choses au travers de ma vie, Père de grâce. Merci Seigneur. Merci pour ta parole qui éclaire et qui donne de l'intelligence aux sages. Merci pour ta sagesse, Seigneur, dont nous avons tellement besoin pour conduire nos vies. Merci Père pour celui qui, à l'écoute de cette parole, a choisi dans son cœur de prendre, Seigneur, l'engagement, Seigneur, d'être dans ta volonté. Merci pour celui que tu as enseigné au travers de cette parole et à qui tu as ouvert les yeux afin que désormais il voit, Seigneur, ce que tu as promis. Merci pour cette église merveilleuse que tu es en train de bâtir, Saint-Esprit. Nous voulons être à tes pieds et nous laisser, Seigneur, conduire par toi. Tu es celui qui nous conduit dans toute la vérité, alors nous voulons honorer, Saint-Esprit. Merci pour ta grâce surabondante, Seigneur, qui nous comble encore de toutes sortes de bienfaits. Merci Père pour ta présence. Conduis-nous encore et amène-nous de gloire en gloire avec toi. Merci pour cette œuvre que tu as commencé et que tu vas pouvoir faire. Seigneur, fais croître cette œuvre. Amen et ramène à ta maison, à ton enclos, toutes tes brebis, Père de grâce. Et que ton nom soit glorifié. Car le rassemblement des peuples, des nations est pour toi. Alors, honneur, louange et magnificence t'appartiennent dans le nom puissant.
Nous espérons que vous avez été richement édifié par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à La Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.